Pipistrelles, rhinolophes, sérotines ou murins, les chauves-souris débarquent donc aujourd'hui dans la Tête au Carré en partenariat avec la revue Nature La Salamandre. Nous allons donc explorer ensemble le monde des chiroptères pour comprendre quelles sont les particularités de ces mammifères qui sont parvenus quand même à survivre à des siècles de persécution. Je vous présente mes invités dans un instant et vous nous rejoignez dès maintenant avec vos messages, toutes vos questions sur le site de la Tête au Carré, franceinter.fr, également sur les réseaux avec le mot-clé « l'attaque ». L'OMS accuse la viande transformée d'être cancérogène et c'est à la une de la science aujourd'hui. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, oui, des conclusions dévoilées hier et qui font déjà grand bruit partout dans le monde. Que faut-il mettre ou ne plus mettre dans vos assiettes? La réponse de nos experts, c'est dans un instant pour la une.
Stéphanie Texier réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par François Mercier.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Dans l'intimité des chauves-souris, c'est donc notre dossier dans quelques minutes. Mes invités pour en parler, Julien Perrault de la revue La Salamandre et le chiroptérologue Laurent Tillon. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Julien Perrault. Les sites de rencontres pour chauves-souris sont en pleine activité apparemment en ce moment.
Oui, on arrive un peu au bout de la saison, mais c'est maintenant, c'est
bon,
vrai.
Ça a bien chauffé alors?
Oui, bah, en fait c'est ce qui nous a décidé à choisir le mois d'octobre pour sortir notre numéro spécial chauves-souris. On s'est dit que c'était la saison où il se passe plein de choses dans ce monde-là.
Ça. Des chauves-souris qui viennent de très loin, enfin qui font beaucoup de kilomètres en tout cas pour parader et s'accoupler.
Oui, elles ont des sites de rendez-vous comme ça, qu'elles retrouvent d'année en année et peuvent franchir des dizaines de kilomètres pour les rejoindre.
On va voir comment tout cela se passe. Laurent Tillon, est-ce que les chauves-souris ont toujours aussi mauvaise réputation aujourd'hui? Est-ce que ça tend quand même un petit peu à changer, à évoluer dans le bon sens?
Ah, ça va de mieux en mieux, d'autant plus parce qu'on en parle de plus en plus depuis une vingtaine d'années. Mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de chiroptérologues qui mènent notamment des actions de communication pour améliorer l'image qu'on peut avoir de ces animaux.
Mais il y a toujours des idées reçues. Qui sont bien ancrées.
Elles sont difficiles à effacer, c'est des milliers et des milliers d'années d'histoire.
Donc, on va y revenir avec vous dans quelques minutes. Et puis on verra aussi que ce sont des animaux qui sont très bien protégés, dans notre pays en particulier.
Oui, elles font l'objet de tout un tas d'attentions, notamment parce qu'elles ont eu un passé un peu difficile.
Et combien d'espèces en France à peu près?
34 officiellement.
Pour le moment.
Pour le moment.
Mais ça peut bouger à tout instant. Voilà. On se retrouve donc avec les messages et les questions des auditeurs qui nous rejoignent en ce moment même sur le site de l'émission. Manger de la viande augmenterait le risque de cancer, une information qui a fait le tour du monde depuis hier, et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Pardon madame, c'est quoi que vous avez pris là?
J'ai rien pris
dans ce paquet.
C'est ma viande.
C'est pour quoi faire?
Ben pour la manger.
Ah, vous êtes carnivore?
Vous vous foutez de ma gueule ou quoi?
Non, pas du tout.
Voilà la voix de Colline Serrault dans le film La Belle Verte. Être carnivore est-il dangereux pour la santé? Vous n'êtes pas passé à côté de cette conclusion rendue publique hier par le Centre international de recherche contre le cancer de Lyon. Aujourd'hui donc pour la une de la science, nous tentons de faire le point sur ces résultats. Kurt Streis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Lyon. Vous êtes expert en charge des monographies pour le CIRC, c'est le Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS. Et puis en studio avec nous, notre médecin Dominique Dupagne. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Kurt Streis, les premiers résultats de votre étude concernent les viandes transformées qui sont maintenant classées cancérigènes pour l'homme. Quels produits sont concernés par cette nouvelle classification pour commencer?
Alors, nous avons fait une revue de toute la littérature publiée sur le sujet. Ça veut dire le lien entre la consommation de la viande rouge et la viande transformée et le cancer et plusieurs cancers chez l'homme. Et les indications les plus fortes, en effet suffisantes, étaient pour la viande transformée et le cancer colorectal. Alors c'est une évaluation globale pour la viande transformée et pour le moment, en revisitant toute la littérature publiée, on ne peut pas être si concluante concernant les substances chimiques qui sont dues à le risque augmenté. Mais quand même, on discute quelques-uns, ce sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques ou les amines aromatiques hétrocycliques ou les nitrosamines. Mais là, on a des données, mais les données ne sont pas concluantes à ce moment.
On reviendra sur les composés. Dominique Dupagne, cette classification cancérigène pour l'homme, c'est la même que pour le tabac ou l'amiante? Jusqu'où peut aller la
Il faut bien reprendre les choses. La viande composée, c'est tout ce qui est transformé, c'est-à-dire du lard fumé, de la saucisse, du saucisson, du boudin, des aliments comme ça. À côté de la viande qui est destinée à être cuisinée, et on a parlé beaucoup de viande rouge, mais ce sont toutes les viandes de mammifères terrestres, hein, le veau, le porc, et tout sauf la volaille en fait. Et donc, on a des composés dans les produits fumés ou transformés qui sont connus comme cancérigènes, mais comme le disait Kurt, c'est pas exclusivement ces composés, il y a peut-être d'autres composants dans ces produits qui sont cancérigènes. Et pour cela, on n'a pas de conditionnel, c'est-à-dire qu'on est certain que ces produits augmentent, on va le voir très légèrement, le risque de cancer. En revanche, pour la viande elle-même, on a un conditionnel, ça pourrait, on n'est pas dans les certains, on est dans les possibles. Bon. Et donc la classification, en effet, comporte des produits comme l'amiante, comme le tabac, mais comme le formaldéhyde, par exemple, qui résulte de la cuisson de courgettes dans une poêle avec de l'huile. Donc vous voyez, on ne peut pas mettre tout sur le même pied.
En tout cas, il y a cette confusion autour du terme de viande rouge. Oui, hein, on est d'accord, absolument. En France en tout cas.
C'est la viande de mammifère, il ne parle pas du lapin, je ne sais pas pourquoi, mais sinon, en général, c'est tous les mammifères qu'on consomme.
Comment peut-on quantifier ce risque, Monsieur Kurchtreis?
Oui, en effet, on a eu une méta-analyse, c'est une analyse de plusieurs études de haute qualité, et là, il y a un risque de à peu près 18% pour chaque portion de 50 grammes de viande transformée mangée chaque jour. Alors, le plus qu'on mange, le plus le risque augmente, mais quand même, ce n'est pas un risque énorme, les 18% pour chaque portion de 50% pour le cancer colorectal, bien entendu.
Et ça passe à 18% pour 100 grammes pour la viande non transformée. Dominique Dupagne, c'est des chiffres importants. Comment les juger ?
Il faut bien comprendre les chiffres. Hein. On est dans un excès de risque extrêmement faible. C'est-à-dire que, par exemple, si une personne a 5% de chance ou de risque de faire un cancer colorectal dans sa vie, ce qui est la réalité des Français, s'il mange 100 grammes en moyenne de viande rouge par jour, c'est-à-dire deux fois la consommation moyenne française qui est de 50 grammes.
Ah oui, c'est deux fois plus. C'est deux fois on plus. Ne mange que 50 grammes de viande en moyenne
en
par
moyenne,
jour.
Parce que de viande, encore une fois, sans compter la volaille. Hein. Ouais. Cette personne va avoir son risque de cancer du côlon qui va passer de 5% à 5,5% voire 6%. Donc on n'est pas dans des excès de risque comme la cigarette par exemple où le fumeur va passer un risque de 1000%.
Ouais.
Pour le cancer du poumon par rapport à un non-fumeur. Donc on est dans des excès de risque légers. Et c'est pareil, par exemple, quand vous choisissez de vivre en ville plutôt qu'à la campagne, vous avez 20% de chance ou de risque de plus de faire un cancer en vivant en ville. Donc on est dans des augmentations de risque qui sont réelles, mais minimes.
Donc on nous alerte sur, finalement, des risques qui ne correspondent pas à la réalité de la consommation de la viande en France.
Ah, n'exagérons rien. Il y a des gens qui consomment 100 grammes par jour en moyenne. C'est les gros consommateurs de viande. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien comprendre, c'est, et le cirque le dit très bien, hein, il y a des qualités nutritionnelles intéressantes dans la viande, notamment le fer, on verra qu'on peut s'en passer, mais à côté de ça, il y a un petit excès de risque qui ne peut pas être négligé et qui, pour les viandes transformées, par rapport à la viande crue qu'on va cuisiner soi-même, pour les viandes transformées, on ne peut pas l'annuler, c'est vraiment une réalité.
Ouais.
Monsieur Schreiss, concernant les viandes non transformées, est-ce que la cuisson a un impact sur la dangerosité ?
On se demandait cette question, en effet, et on a regardé toutes les études épidémiologiques sur le lien de la consommation de la viande rouge et le cancer colorectal. Il y a quelques études qui avec une indication que c'est la méthode de cuisson, mais en effet, on ne pouvait pas conclure que c'est vraiment la cuisson à haute température de la viande rouge qui est la cause pour le risque s'il y en a. Il faut bien mémoriser que c'est pour le moment un cancérogène probable. Mais avec la cuisson à haute température, il y a une génération des amines aromatiques hétrocycliques qui sont connues de cancérogènes chez les animaux.
Le goudron, Dominique Dupagne, oui, a été pointé du doigt depuis assez longtemps.
Bien sûr, qui est connu comme cancérogène certain.
Oui, oui.
Et donc, quand on fait cuire quelque chose de gras à haute température, on fabrique du goudron, donc on fait un produit cancérigène. Et c'est pas uniquement la viande d'ailleurs.
Finalement, c'est la transformation des viandes ou leur cuisson qui sont pointées du doigt aujourd'hui, plus que la viande en elle-même, Dominique Dupagne.
Alors, il y a d'une part les produits composés, on n'en parle plus, on a bien compris, oui. C'est le boudin. Ensuite, dans la viande elle-même, comme le dit Kurt, il y a d'une part la cuisson qui va développer les produits qui sont connus comme cancérogènes. Mais ce qu'il veut dire, c'est qu'on peut pas être certain que c'est exclusivement la cuisson qui va provoquer ça. Et on peut pas être absolument certain que le steak tartare, par exemple, est dénué de toute forme de danger. Sachant encore une fois, et il l'a dit et redit, pour la viande qu'on cuisine soi-même, le risque est probable et pas certain et il est très faible.
Alors, comment justement, si on prend un petit peu de recul par rapport à l'avalanche de commentaires sur cette information qui est tombée hier, qui était donc très commentée dans le monde entier, Dominique Dupagne, qu'est-ce qu'il faut retenir d'une telle étude aujourd'hui ?
Il faut retenir que la viande n'est pas un aliment indispensable en grande quantité, ça on le savait, les besoins en protéines de l'individu sont assez faibles. Par exemple, un œuf par jour suffit à combler tous les besoins en protéines, donc la viande n'est pas un aliment indispensable, elle apporte du fer, comme le cirque le rappelle. À côté de ça, sa consommation, et notamment sa consommation importante, parce que 100 grammes en moyenne par jour, ça veut dire qu'on se fait des entrecôtes de 200 grammes et qu'on n'hésite pas à y aller sur la viande rouge, expose un léger surcroît de risque de cancer colorectal qui est indéniable pour les produits composés est probable pour la viande. Il faut le savoir quand on fait des choix, mais ça n'a rien à voir avec des risques associés à des grands facteurs de cancer, l'alcoolisme, le tabagisme. Donc, c'est un risque à connaître. On est dans une espèce de démocratie sanitaire. Maintenant, on dit aux gens, voilà, vous avez les données, maintenant vous choisissez ce que vous mangez. Vous êtes pas, c'est pas du suicide de manger de la viande. En même temps, si vous mangez de la volaille, hein, du dinosaure, puisqu'on sait à la tête au carré que les volailles sont des dinosaures, et bien, si vous mangez du dinosaure, vous avez un petit peu moins de risque de faire du cancer. Colorectal.
Et ceux qui choisissent d'arrêter de manger de la viande, est-ce qu'ils s'exposent à des risques particuliers ?
Non, le régime végétarien n'est pas dangereux pour la santé en aucune façon, contrairement au végétalien qui est un peu plus difficile à équilibrer, mais on n'est absolument pas forcé de manger de la viande pour être en bonne santé.
Vous qui traquez les conflits d'intérêts, Dominique Dupagne, par rapport au lobby des éleveurs, ben là pour le coup...
On peut être certain d'une chose en tout cas, et ça je pense que Kurt sera content d'entendre, c'est qu'on est à peu près certain que les 22 chercheurs qui étaient présents au cirque, eh bien il n'y a aucun représentant des lobbies d'éleveurs, parce que si c'était le cas, on aurait eu quelque chose de moins tranché.
Vous le confirmez, Kurt Streis ?
Oui, c'est tout bien dit.
Merci beaucoup en tout cas pour vos explications. Je sais que vous êtes très sollicité pour commenter donc cette étude qui elle-même est très commentée par l'ensemble des médias du monde entier qui est arrivée donc hier. Merci Dominique pour votre éclairage. Kurt Streis, merci également. Axel, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, dans le reste de l'actualité scientifique, le géant pétrolier Exxon avait-il anticipé le réchauffement climatique pour mieux le nier ? Une enquête du site Inside Climate Change suggère en effet que des scientifiques du groupe Exxon ont étudié le phénomène d'accroissement des températures en lien avec le CO2 atmosphérique dès 1977, soit 11 ans avant que les premières données soient dévoilées au grand public. Une information classée alors dangereuse en interne selon les documents consultés par les journalistes américains. Entre 2005 et 2008, Exxon a dépensé près de 9 millions de dollars pour financer plusieurs think tanks niant le réchauffement climatique. Joy Milne est britannique. Elle pense pouvoir sentir la maladie de Parkinson. Ce qui pourrait n'être qu'une anecdote vient d'être pris très au sérieux par un groupe de chercheurs anglais. John Milne avait remarqué un changement de l'odeur de son mari plusieurs années avant qu'il ne développe les symptômes de la maladie. Après avoir passé des tests en aveugle, cette femme serait capable de retrouver des malades à l'odeur. Un projet de recherche de la Fondation Parkinson vient donc de s'ouvrir en Grande-Bretagne pour savoir si cette maladie a une odeur. Et puis pour terminer, une comète qui dégage du sucre et de l'alcool. Cette drôle de découverte nous vient d'une équipe internationale dirigée par deux Français qui étudient les molécules organiques complexes se trouvant dans l'espace, ces petites briques de la vie. Alors qu'ils étudiaient la composition de la comète Lovejoy, ils ont trouvé à leur grande surprise deux composés bien connus sur Terre qui ne sont autres donc que le sucre et l'alcool. Selon les chercheurs, pendant son passage près du Soleil, cette comète a libéré sous l'action de la chaleur l'équivalent d'alcool de 500 bouteilles de vin. Et les chauves-souris nous attendent au fond de la grotte dans un instant. Ce sera juste après le retour d'Adèle. Nouveau titre avec Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for everything that I've done. But when I call you, never seem to be home. Hello from the outside.
Hello, how are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from the other side. I must have called a thousand times to tell you I'm sorry for breaking your heart, but it don't matter. It clearly doesn't take.
C'est donc le retour d'Adèle. Nouvel album, premier extrait. Hello à l'instant.
La tête au carré sur France Inter.
Un dossier chiroptère donc cet après-midi dans la tête au carré avec nos confrères de la revue Nature La Salamande qui consacre donc son nouveau numéro aux chauves-souris. Alors que nous sommes, on l'a dit tout à l'heure, en pleine saison des amours. Julien Perrault, vous êtes le rédacteur en chef de La Salamande. Et puis à vos côtés se trouve Laurent Tillon, ingénieur forestier chiroptérologue, et vous coordonnez les actions de conservation sur les mammifères, donc pas seulement les chauves-souris, à l'échelle des territoires gérés par l'ONF. Les messages des auditeurs donc arrivent déjà nombreux sur le site de l'émission franceinter.fr et Twitter avec le mot-clé, l'attaque. Vous êtes nombreux en tant que chiroptérologue, Laurent Tillon, sur le territoire ?
Alors, en termes de professionnels, on a quand même quelques dizaines de professionnels, notamment avec la montée en puissance des études d'impact, qui a ouvert la porte à la possibilité de mener des études par des spécialistes, notamment dans un cadre bureau d'études. Mmh. Le monde associatif aussi s'est doté de nombreux professionnels, et du coup, le monde des professionnels, effectivement, s'est fortement étoffé et est accompagné aujourd'hui d'un réseau bénévole très complet, ouais. Avec pas loin de, on estime, 1500 à 2000 personnes.
Ah oui, donc vous avez aussi des données intéressantes qui vous viennent en nombre, hein, ouais. des amateurs.
Exactement, ouais. Exactement. Pour vous donner un petit ordre d'idée, ces 5 dernières années, on a fait un petit compte. On estime qu'à peu près 16 000 heures de bénévolat a été consacrée à l'étude des chauves-souris.
Ouais. Qu'est-ce que vous cherchez à savoir exactement en étudiant donc les chauves-souris ?
Oh, il y a plein de choses à savoir, en fait, à la fois sur leur écologie, leur biologie, les rythmes biologiques, la manière dont elles utilisent les habitats nous-mêmes on façonne et qu'on a l'habitude d'utiliser, que ce soit les maisons, que ce soit nos forêts, les milieux naturels. Il y a plein de choses à découvrir avec ces espèces.
Et le milieu forestier, c'est vraiment votre sujet. Vous avez fait votre thèse là-dessus il y a pas longtemps d'ailleurs.
Et oui,
vous êtes un jeune thésard, C'était quoi le thème exact de votre thèse ?
C'était l'utilisation des gîtes et des terrains de chasse par les chiroptères forestiers dans un but de gestion conservatoire.
Ah bon, ça va, c'est assez vulgarisé comme titre de thèse finalement.
Ah ben, j'ai Bravo. Essayé justement de la rendre la plus publique possible. Ouais.
Julien Perrault, La Salamandre, qui suit donc la saison des chauves-souris avec un mois d'octobre, mais pas seulement, ça a commencé déjà depuis la mi-août, hein, qui est le mois du batifolage, en tout cas l'automne.
Oui, bah oui, il faut se dépêcher de faire l'amour, parce qu'après l'hiver va venir.
Ah, c'est beau, c'est comme formule.
Et oui, et pour les chauves-souris, l'hiver, c'est le repos forcé, ouais. Parce qu'elles n'ont plus rien à manger, il y a enfin, il reste très peu d'insectes.
Oui.
Donc, elles doivent ralentir leur métabolisme. Alors, ce qui est particulier chez les chauves-souris, c'est qu'elles s'accouplent avant l'hiver, mais en même temps, le démarrage se fait qu'au printemps. Ça veut dire que les femelles gardent précieusement le sperme des mâles tout l'hiver.
C'est ça.
Pour que leurs ovules soient fécondés à leur réveil.
Dans un petit sac qui lui est dédié, c'est
un
ça?
Un petit sac tout rose, tout joli.
Ouais.
Et que les jeunes naissent classiquement au mois de juin.
C'est donc la chauve-souris que vous mettez à la une de la salamandre, qu'on ne trouve que sur Internet, on peut le rappeler, la salamandre.net, avec une nouvelle formule pour les ados maintenant, c'est ça?
Oui, alors il y a la salamandre pour les adultes, la salamandre junior pour les 8-12, et la petite salamandre pour les 4-7 ans. En effet.
Alors, dans ce numéro, vous dressez le portrait du chiroptérologue. C'est un homme bardé d'instruments en tout genre. Est-ce que vous êtes reconnu dans cette description, Laurent Tillon?
Eh ben oui, complètement.
L'admettre. Ouais.
C'est vrai qu'on...
C'est du lourd, hein, l'équipement du chiroptérologue.
C'est du lourd, ouais. Là, le dessin qui a été réalisé dans la salamandre montre un chiroptérologue doté d'une antenne, d'un récepteur, d'une lampe frontale, d'une radio et de tout un tas d'instruments. Et
ben, la caisse à outils, la table pliante.
On a souvent tout ça en forêt pour étudier les chauves-souris.
Voilà. La mine un peu fatiguée quand même, hein.
Ouais, ouais.
Faut dire que vous travaillez tout le temps la nuit, quasiment.
Ben,
c'est ça.
C'est le fond de commerce.
Ouais. Les gants très importants aussi.
Les gants très importants pour manipuler ces animaux. Hein. Faut pas oublier que ce sont des animaux sauvages qui peuvent véhiculer des maladies. Alors on en parle peu parce que le risque est quand même très très faible. Mais malgré tout, quand on est amené à manipuler de la faune sauvage, il faut toujours se protéger et protéger l'animal.
En tout cas, les risques en France et en Europe sont faibles.
Oui. Hein.
Si par contre on s'en va dans des pays africains, sous les
notamment,
tropiques, par exemple,
effectivement. On a beaucoup entendu parler d'Ebola, on a entendu parler du SRAS. Alors c'est vrai que ce sont des animaux qui peuvent véhiculer des maladies, mais encore, je le répète, si on compare aux autres mammifères de la planète, finalement, les chiroptères hébergent peu de maladies. Hein.
Julien Perrault, vous éditez également un autre livre, ça s'appelle Passeurs de lune, les nuits secrètes des animaux sauvages. Ce sont des photographies noir et blanc magnifiques d'Éric Médard, et qui a photographié alors, dans les trois milieux, au fond, les chauves-souris.
Exactement, donc c'est un beau livre qu'on sort cet automne et qui nous présente toute la faune qu'on peut observer la nuit, qui a été photographiée en noir et blanc, lumière infrarouge, pour ne pas déranger les animaux. Et effectivement, dans ce livre Passeurs de lune, on voit des chauves-souris autour des maisons, on voit des chauves-souris au bord de l'eau, on voit des chauves-souris aussi en forêt, et puis tout le bestiaire de la nuit, tous les autres animaux qu'on peut observer la nuit.
Elles sont donc là dans notre environnement proche, en ville également, Laurent Tillon ?
Oui, exactement.
Dans les milieux urbains, même si de moins en moins d'espace leur sont dédiés.
Leur sont réservés, exactement. C'est d'ailleurs tout le problème aujourd'hui. C'est vrai qu'on estime que beaucoup d'espèces ont suivi l'homme, notamment les rhinolophes, et auraient probablement profité de l'habitat urbain pour aller vers le nord, notamment en Europe. Et c'est vrai que du coup, tout un tas d'espèces se sont adaptées à l'homme et utilisent les granges, les greniers, les volets, notamment les pipistrelles. On a l'habitude de voir des petites chauves-souris derrière les volets. Et souvent, ce sont des pipistrelles communes.
Célia nous écrit de Guadeloupe. On la salue. Nous avons des chauves-souris dans notre toit. Est-ce normal, nous dit-elle, et comment s'en débarrasser? Des fois, elles survolent nos têtes de près.
En fait, je suis tenté de répondre, est-ce normal? Oui. Comment peut-on s'en débarrasser? Quelle chance vous avez d'en avoir? Puisque c'est des animaux qui, pour la plupart, en Guadeloupe, il existe quelques espèces frugivores, mais quand même, pour la plupart, ce sont des espèces insectivores. Donc, qui vont avoir la particularité de chasser des insectes, notamment des moustiques. Donc, ça arrive qu'on me pose aussi cette question ou qu'on pose des questions au réseau bénévole dans l'Hexagone. Et on a tendance à leur répondre quand les gens nous posent cette question. Voulez-vous vraiment qu'on vous en débarrasse? Vous risquez d'avoir des problèmes de moustiques.
Donc, on voit la différence après, effectivement.
Exactement.
Lorsqu'elles ne sont plus là. Reportage de la BBC sur ces mammifères volants que sont les chauves-souris et sur leur recherche de nourriture.
Repérer des insectes noirs en pleine nuit, cela ressemble à une mission impossible. Mais pas pour une chauve-souris. Celle-ci va en tuer une vingtaine cette nuit. Pourtant, comme tous ses congénères, elle est pratiquement aveugle. Une fois son repas achevé, elle reprend de la hauteur pour fondre sur sa prochaine proie.
Voilà, c'est du lourd, hein. C'est la BBC évidemment. Beaucoup de dramaturgie dans ce reportage sur les chauves-souris qui se nourrissent donc d'insectes, principalement en tous les cas. Là, on en a 17 qui ont été capturés. C'est peu, vous me disiez, Laurent?
Ouais, dans une nuit, on peut imaginer qu'une pipistrelle commune vienne à dévorer jusqu'à 600 moustiques, un seul individu.
Ah oui, quand même, donc c'est alors, ça l'utilité. Oui,
exactement,
oui.
Donc se débarrasser d'une colonie de pipistrelles qu'on a dans son toit, c'est se soumettre à un risque fort de piqûres de moustiques pour l'été qui suit.
C'est ça. Julien Perrault, il y a plusieurs régimes alimentaires pour les chauves-souris?
Alors, la plupart des chauves-souris, enfin, toutes les chauves-souris qu'on a en Europe sont insectivores, mais c'est vrai qu'elles ont toutes des stratégies différentes, parce qu'en fait, si je vous dis chauves-souris, vous imaginez des mammifères volants, en gros, qui se ressemblent tous, et en fait, parmi ces 34 espèces, il y a des animaux extrêmement variés, extrêmement différents, de taille, de physionomie, de milieu naturel, et aussi justement de proie. Vous avez des espèces, les pipistrelles dont on vient de parler, qui s'attaquent à des très petits insectes. Vous avez des espèces en forêt qui vont cueillir les insectes qui sont posés sur des feuilles. Vous avez des espèces qui capturent des plus gros insectes en plein ciel, etc. Et dans tous les cas, l'outil qu'elles utilisent pour localiser leur proie, donc leur système d'écolocation très évolué et aussi adapté. Donc il y a toutes sortes de formes d'oreilles, il y a toutes sortes de manières d'émettre le son, il y a toutes sortes de types de fréquences et de cris qui sont aussi adaptés aux différents types de proies.
Alors justement, nous on parle beaucoup des insectes pour ce qui est de l'Europe, hein, Laurent Tillon, mais si on voyage un petit peu ailleurs dans le monde, d'autres régimes alimentaires vont s'imposer pour les chauves-souris?
Oui, notamment en zone tropicale. C'est vrai que les chauves-souris jouent un rôle par exemple prépondérant pour la dispersion des graines des essences forestières. Ça veut dire aussi que, notamment en Amérique du Sud ou en Afrique, sans les chauves-souris, il n'y aurait pas de forêt. Simplement parce que les graines doivent absolument passer par le système intestinal de la chauve-souris pour déclencher la germination de la graine. Ouais. Donc là, c'est un passage obligé. Alors il y a aussi d'autres régimes, hein, hématophages, des espèces pollinisatrices aussi, qui donc du coup contribuent à polliniser les fleurs des arbres forestiers.
Ouais. Hématophages, on en a beaucoup, des comme
non,
ça.
Non, c'est celles qui font peur. Il y a trois espèces au monde, oui,
évidemment.
Il y a trois espèces au monde qui sont réservées uniquement à l'Amérique du Sud et qui, pour l'une d'entre elles, effectivement est spécialisée sur les gros vertébrés, donc notamment les mammifères et puis certains oiseaux. Mais sinon, ça reste quand même des espèces assez rares.
Ouais, donc elles se nourrissent du sang des bêtes. Quelles sont les conséquences en général lorsqu'une bête se fait mordre par une chauve-souris?
Alors un affaiblissement souvent général à partir du moment où les morsures sont régulières. Souvent, ça arrive que sur certains troupeaux de bétail, une colonie du Desmodus rotundus, le fameux vampire dont on parle, se spécialise et vient s'alimenter tous les soirs. Et du coup, à force de mordre en permanence les mêmes animaux, ça peut arriver qu'ils aient un affaiblissement généralisé.
Quelle est la taille de ces chauves-souris vampires en général? Ce sont des gros spécimens?
Non, c'est des animaux qui font 20 à 25 grammes, donc ça reste quand même assez réduit.
Ah oui, c'est tout?
Oui, c'est tout petit.
D'accord.
On est loin des dessins animés quand même.
Mais ils ont des têtes affreuses quand même, ces animaux, non?
Les têtes affreuses, tout est relatif.
Non, vous ne trouvez pas? Leur faciès a l'air assez impressionnant quand même, non?
Ah, ça dépend. En fait, quand on commence à s'intéresser vraiment à ces animaux, on devient vite accro et au contraire.
C'est ça, vous les aimez trop en fait.
On n'est pas le bon public pour nous poser cette question.
Giordano demande, nous dit ceci, en tout cas, je vis à la campagne dans le Calvados et je constate qu'il n'y a quasiment plus de chauves-souris, alors qu'il y en avait beaucoup lorsque j'étais enfant dans les années 70.
En fait, ce que ce monsieur constate, c'est effectivement ce qu'on a pu vivre en France avec une baisse progressive des effectifs dans les années 60-70, pour tout un tas de raisons. La fermeture des habitations, la modification des habitats, des milieux, de nos paysages, la fermeture des grottes dans certains cas, et le dérangement, beaucoup, la méconnaissance des chauves-souris a amené de gros dégâts sur les populations. Et donc, on a observé une forte diminution des effectifs depuis les années 60 jusque dans les années 80, ce qui a amené effectivement, un, à les protéger, et deux, à mener des plans d'action ou de restauration des populations.
Et la disparition des insectes aussi.
Alors, j'allais dire, c'est qu'à cela s'est rajouté une évolution générale, effectivement, par les pesticides et aussi par l'évolution du paysage, qui fait qu'il y a de moins en moins d'insectes, donc il y a de moins en moins à manger, pour les chauves-souris, mais aussi pour toutes sortes d'oiseaux. Et donc, ça explique que chez les chauves-souris, même chez les espèces, disons, courantes, il y a aussi une forte diminution des effectifs.
Allez, on se retrouve dans un instant pour vous, les messages sur le site de l'émission. Et puis également un nouveau retour, William Scheller avec Yupi Long.
Depuis peu que j'ai fait fortune, je me suis acheté un jardin sur la lune, juste du côté que l'on ne voit pas. Imaginez un champ d'herbes roses, une maison jaune. des papillons que l'on découpe dans des cahiers de papier blanc prennent leur couleur au fil du vent. Y a rien qui mord, y a rien qui pique derrière les collines, on entend tous les vieux airs d'un flonflon permanent. C'est un jardin des merveilles où l'on ne vit qu'à deux. Il n'y en a pas de pareil, tu viendras si tu veux. Mais si tu crois que je vis un rêve, ne me réveille pas.
J'ai entendu à la radio ce matin, on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Faut quand même savoir qu'il y a un gars qui s'est sûrement cassé le cul pendant des mois et des mois, avec du matériel et tout, pour arriver à la conclusion suivante: on a une chance sur 10 millions de se faire mordre par une chauve-souris enragée. Alors moi, je suis pas curieux, mais j'aurais quand même bien savoir comment il a fait, le gars, pour déterminer qu'on avait tous, en moyenne, une chance sur 10 millions de se faire mordre.
Voilà, la science selon Jean-Marie Bigard, avec ce sketch sur les chauves-souris. C'est le dossier de l'émission avec mes invités Laurent Tillon et Julien Perrault, en partenariat avec la Salamandre. Laurent Tillon, vous avez beaucoup souri en écoutant Jean-Marie Bigard, parce que c'est vrai qu'une chance sur 10 millions, c'est quand même très très peu.
Ouais, c'est très très peu.
Et comment sait-on ça exactement?
Après, je sais pas comment l'estimation a été réalisée.
Voilà, c'est ça, la méthodologie, s'il vous plaît.
En fait, moi, à part les collègues chiroptérologues qui manipulent beaucoup de chauves-souris
et
encore,
qui eux se font mordre parfois.
Encore se font mordre alors qu'ils ont des gants. Je vois pas comment on peut arriver à se faire mordre par une chauve-souris enragée. À partir du moment où on est précautionneux, où on fait attention, où on met des gants.
Mais c'est ça. Mais ça fait encore partie des idées reçues et bien tenaces, hein, Julien Perrault.
Mais oui, c'est comme, bien sûr, c'est comme le fantasme que les chauves-souris vont se prendre dans nos cheveux, alors que, en fait, elles voient aussi bien que nous en plein jour, la nuit, avec leur écolocation. Donc elles nous localisent parfaitement bien. Elles n'ont qu'une raison de s'accrocher dans nos cheveux. Enfin, c'est ces espèces d'idées comme ça qui continuent.
Mais d'où viennent ces histoires? On en connaît l'origine.
Elles viennent de loin. Elles viennent de loin. Et puis en plus, la chauve-souris est un animal qui vit la nuit. Donc la nuit, c'est le diable. Enfin, il y a des associations d'idées là que ces animaux ont porté pendant des siècles et qui leur ont fait beaucoup de mal.
C'est vrai.
Mais c'est chouette que maintenant, justement, grâce à tous les passionnés, grâce à tous les chiroptérologues, on se rend compte que c'est des animaux juste extraordinaires.
Comment est votre intérêt pour ces mammifères volants, Laurent Tillon?
Oula, il suffit en fait d'être un peu naturaliste et puis de commencer à regarder comment fonctionnent ces espèces, notamment avec leur système d'écolocation, leur rythme de vie, le cycle biologique annuel. Et assez vite, quand on commence à plonger dedans, on n'en sort plus, parce que c'est des animaux qui sont tout simplement fascinants.
Ouais. Et singuliers. Présentent des caractéristiques qui n'appartiennent qu'à eux.
Exactement, avec la possibilité de voler. Pour des mammifères, c'est quand même unique. Mmh. C'est les seuls qui sont capables de vol. C'est aussi les seuls qui utilisent l'écolocation telle qu'ils l'utilisent. D'autres mammifères utilisent l'écolocation, mais là, c'est quand même très particulier.
Ouais. Alors Benoît sur Twitter demande, mais pourquoi dit-on chauve-souris, Julien Perrault, s'il vous plaît? C'est vrai, hein?
Alors d'ailleurs, on a intitulé notre dossier « Ni chauve, ni souris oui. » pour tordre le cou une fois pour toutes. C'est vrai que ce n'est pas non très bien choisi. Pourquoi chauve? Probablement parce que leurs ailes sont pas couvertes de poils.
Oui.
Effectivement, les ailes des chauves-souris sont faites de peau très très fine, mais il y a quand même à l'intérieur de l'épaisseur des vaisseaux sanguins, des muscles, etc. Donc peut-être c'est pour ça qu'on les appelle chauves. Et puis souris, tout simplement parce que c'est des petits mammifères qui ressemblent extérieurement, très grossièrement, peut-être à une souris, mais en même temps, ils n'ont rien à voir qu'une souris, parce que d'abord, ils se nourrissent d'insectes, et puis, enfin, c'est tout autre chose.
Ouais, le rantillon, c'est étonnant, finalement, ce nom attribué à cet animal, non?
Oui, alors ça vient aussi de noms très anciens, kawasorix, en grec, qui veut dire souris chouette, aussi. Donc, en fait, il y a une contraction à la fois de ces deux mots, et puis il y a l'explication de Julien aussi, hein, qui permet de dire qu'effectivement, on n'a affaire ni à des souris, ni à des animaux qui sont chauves, hein, voilà, c'est une particularité à part dans le monde des mammifères.
À quand remontent justement les premières chauves-souris dans l'histoire du vivant, dans cette famille précisément des mammifères?
En fait, ça remonte à plus de 50 millions d'années.
Donc les dinosaures étaient
Les dinosaures ont disparu, et puis à un moment apparaissent les premières chauves-souris. Mais on a du mal à trouver l'ancêtre des chauves-souris, c'est-à-dire un animal qui serait pas encore capable d'un vol battu tel qu'on le connaît chez les chauves-souris, mais qui serait plutôt capable de planer. C'est-à-dire qu'on passe de mammifères terrestres ou de mammifères arboricoles à des animaux capables de vol, ouais. Que sont les chauves-souris.
Et donc on a des fossiles de cette période déjà ?
Ouais, 52 millions d'années.
Et ça ressemble à quoi, une chauve-souris d'il y a 52 millions d'années?
C'est ça qui est incroyable, c'est qu'une chauve-souris d'il y a 52 millions d'années, ça ressemble pas mal à une chauve-souris d'aujourd'hui. Probablement que l'évolution s'est faite tellement vite que finalement les dinosaures, en disparaissant, ils ont laissé tellement de place. Mm-hmm. Il y a plein de groupes de mammifères qui sont apparus très rapidement et qu'on n'a justement pas les étapes intermédiaires, peut-être qu'on les découvrira un jour, de ce passage d'un mode de vie probablement arboricole à un mode de vie aérien.
Oui. Où en sont les différentes populations de chauves-souris en France et est-ce que la situation s'arrange pour ces bêtes, nous demande Pascal sur Twitter. Alors Laurent Tillon, c'est votre terrain de chasse justement, la France.
Exactement. Alors comme je le disais tout à l'heure, hein, les populations ont fortement décliné dans les années 60, 70, 80. Donc tout un tas d'opérations ont été menées pour leur conservation et pour améliorer la situation. Du coup, au début des années 2000, on a vu un premier plan d'action porté par le ministère de l'écologie qui s'est focalisé en particulier sur les espèces les plus rares, oui. Celles qui avaient le plus décliné. Un deuxième plan d'action a vu le jour entre 2009 et 2013 et notamment grâce au travail du réseau de bénévoles, a contribué à fortement améliorer la situation de certaines espèces. Pour autant, on s'est rendu compte par des suivis assez récents que en s'intéressant particulièrement aux espèces les plus rares, on avait un petit peu mis de côté les espèces dites communes, notamment notre pipistrelle commune. Et un travail très récent mené par le Muséum National d'Histoire Naturelle à partir d'études acoustiques a montré une baisse progressive des populations de pipistrelles en Île-de-France notamment, avec près de 30 à 40% de baisse des effectifs.
Ah oui, quand même, c'est beaucoup.
Ce qui est assez conséquent, donc ça amène de nouvelles inquiétudes. Inévitablement, dans les années à venir, il va falloir qu'on se penche à nouveau sur le cas des espèces les plus communes.
Et alors, quelles sont les explications sur ces baisses de population ?
Là encore, c'est compliqué, c'est une multitude de facteurs. De continuer à modifier nos paysages et puis la manière dont on aménage notre territoire contribue fortement à faire baisser les populations. Il y a probablement, alors c'est un petit peu délicat, mais il y a probablement aussi les nouvelles politiques permettant d'améliorer l'aménagement urbain, notamment par les systèmes améliorant l'isolation des habitations. On ne peut qu'y être favorable, mais avant, il y avait des niches qui étaient utilisables par les chauves-souris dans les habitats. Maintenant qu'on améliore l'isolation, elles ont moins de place.
Et le nombre d'espèces dans le monde, Julien Perrault, à peu près, on disait 34 pour la France. Dans le reste
dans
du monde,
je ne sais pas, Laurent, tu as une idée?
On serait plutôt aux alentours de 1200, 1300 espèces.
Ouais. Et donc,
mais
la
là
même chose,
ça va évoluer.
Ouais. On en découvre tout le temps.
On en découvre tout le temps, notamment par l'intermédiaire de l'outil génétique. Et là, on sait par exemple...
C'est-à-dire qu'il y a des mauvaises classifications qui ont été faites auparavant.
Exactement.
Et que la génétique permet un petit peu de clarifier.
Alors, des mauvaises classifications, j'irai pas jusque-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'un murin est un murin. Voilà, on n'a pas de doute là-dessus. Par contre, prenons le cas d'une espèce, le murin de Natterer. On est aujourd'hui certain qu'il y a probablement dans l'Hexagone au moins 3, voire 4 espèces différentes de murin de Natterer. Alors pour l'instant, on en connaît un, le murin de Natterer. On a déjà défini une nouvelle espèce que les Espagnols avaient découvert, notamment dans le pays catalan, le murin d'Escalera. Mais on sait que dans la moitié sud de la France, on a au moins 3 autres espèces de murin de Natterer qui restent à décrire.
Partons près de Bourges, une région où on s'intéresse particulièrement aux chauves-souris, avec Laurent Arthur, qui avait rencontré il y a quelques années Céline Bézy, justement, pour La Tête au Carré.
Alors, je vais prendre une lampe, et donc là, on va s'enfoncer sous terre. Bon, on va suivre.
Il va falloir parler doucement.
Alors il faut parler doucement pour ne pas les réveiller. Il faut vraiment faire très attention à ne pas réveiller une chauve-souris en hibernation, surtout en plein cœur de l'hiver quand il n'y a rien à chasser. La chauve-souris, elle doit tenir 6 mois avec des réserves de graisse qui sont quand même minimes. Ça représente quelques grammes, ce qui est très très peu pour tenir 6 mois.
Comment elles s'accrochent, ces chauves-souris ?
Alors là, le système de suspension est très pratique. Et c'est le poids de la chauve-souris qui actionne, qui tend un tendon. Et ce tendon fait sortir les griffes et les blocs en position d'accrochage. Donc une chauve-souris, même morte, continue à être accrochée par les pieds.
Voilà, c'était au cœur de la grotte dans la région de Bourges, Julien Perrault, donc avec un système d'attache très efficace, visiblement.
Ben oui, pas besoin de consommer de l'énergie pour rester suspendu. Ouais. C'est vital, effectivement, pour une chauve-souris, il doit rester des mois sans consommer quasiment d'énergie, très très peu.
Et ne pas réveiller une chauve-souris qui dort, hein, Laurent
Xéon. Exactement, ouais. Sinon ça peut lui être fatal.
Ouais. Pourquoi est-ce qu'elle vit la tête en bas ?
En fait, c'est vrai qu'on a l'image des chauves-souris qui vivent la tête en bas. C'est pas complètement vrai. C'est pas toujours vrai. Ça dépend des espèces. Certaines espèces doivent inévitablement être la tête en bas. C'est le cas des rhinolophes, par exemple.
Pourquoi ?
Simplement parce que leur système d'accroche, effectivement, c'est des animaux qui sont qui se suspendent de manière individuelle, alors que les autres, par exemple, peuvent être parfois groupés. Mm-hmm. Lui, le petit rhinolophe ou le grand rhinolophe, ce sont des espèces qui effectivement sont systématiquement au plafond. Les autres ont quand même la capacité d'être posés. Et ça nous arrive même quand on réalise des inventaires dans des cavités souterraines, d'être très attentif à l'endroit où on pose les pieds. Parce que ça peut arriver que dans un tas de pierres au sol, certaines chauves-souris soient entre les pierres.
Mais c'est vrai qu'on a cette image de grappe de chauves-souris dans les cavités.
Ouais, exactement. Alors c'est vrai que elles ont tendance quand même à se rassembler.
Pour se réchauffer, principalement?
Pas forcément pour se réchauffer. C'est aussi parce que ce sont des animaux qui sont très grégaires, qui sont très sociaux et qui ont besoin d'être les uns avec les autres. Mmh. Donc, du coup, ça nous arrive effectivement régulièrement de voir des espèces qui sont en grappe. C'est le cas par exemple du murin oreiller chancré. Mais il y a aussi d'autres espèces de murins qui peuvent être en grappe et dans d'autres situations être en individu isolé, mmh, dans une fissure ou contre une paroi posée là à plat.
Mais pendant la période d'hiver, Julien Perrault, il y a quand même un rassemblement qui sert à faire remonter la température à
alors
peu près pour les organismes.
C'est sûr que ça aide. Hein, le champion en la matière, c'est le myoptère, qui est une chauve-souris qui se réunit sur quelques mètres carrés. Vous pouvez avoir des milliers d'individus qui, mmh, sont serrés les uns contre les autres. Et puis il faut se rendre compte qu'à ce moment-là, le métabolisme change complètement. Hein. Une chauve-souris en activité, ça vit à un rythme incroyable. Je dirais qu'elles ont plusieurs centaines de battements de cœur par seconde. Et au moment de l'hivernage, le cœur ne bat plus qu'une dizaine de fois par minute. Oui. Une chauve-souris peut être en apnée pendant presque une demi-heure à ce moment-là. Donc je veux dire, vraiment, il leur faut d'ailleurs 2-3 heures pour s'endormir. Et puis après, ça ne veut pas dire qu'ils vont pas se réveiller tout l'hiver quand même, hein, des fois pour se réhydrater ou même pour aller chasser quand il y a un petit redoux et qu'il y a des insectes qui volent. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on les réveille accidentellement, elles vont consommer des réserves de graisse qu'elles ont en très faible quantité, mmh, et ça peut les condamner.
Et un cœur avec un volume impressionnant aussi, Laurent Tillon.
Si on prend supérieur au nôtre.
C'est ça. Et si on prend deux mammifères, donc de la même taille, mmh, la chauve-souris aura un cœur quoi, 3 fois plus gros. C'est
3
ça
fois plus gros que le nôtre, ouais. Mais c'est un cœur qui a une fonction de devoir envoyer le sang jusqu'au bout de tous les membres, notamment le bout des ailes. Et puis qui, lorsque l'animal est à l'envers, doit aussi envoyer le sang jusqu'aux pieds et éviter que le cerveau soit submergé par le sang.
La tête au carré, la tête en bas, justement, avec les chauves-souris. On se retrouve dans un instant, dernière partie de l'émission. Vos messages toujours sur franceinter.fr.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. If I have been unkind, I hope that you can just let it go by. If I have been untrue, hope you know it was not to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. A beggar standing there on his crutch, he said to me, you must not ask for too much. And a woman leaning in her door, she cried to me, hey, why not ask for more? Like a bird on the wire, like a drunk in a old midnight choir, I have tried in my way to be free.
Like a Bird de Leonard Cohen et Thierry Dupin qui signe la programmation de notre Tête au Carré consacrée donc aux chauves-souris avec la Salamandre, la revue Nature, mes invités, Laurent Tillon donc qui est chiroptérologue et Julien Perrault, rédacteur en chef de la Salamandre. Il y a beaucoup de questions pour vous, beaucoup qui arrivent de l'île Maurice. Je vous les transmets dans un instant. Une question de Christophe sur Twitter qui nous parle du mécanisme écolocation ou écolocalisation. On peut dire les deux?
On peut dire les deux, ouais.
Ouais. Il aimerait savoir s'il est le même que nos radars. Comment ça fonctionne donc chez ces mammifères?
Alors, par rapport au radar, c'est vrai que c'est exactement le même principe, si ce n'est que le type d'onde émis est totalement différent. Là, on a affaire à des ultrasons qui sont émis avec une puissance importante. Hein. Il faut avoir un écho. C'est un petit peu comme nous quand on est, par exemple, en montagne. Pour nous abuser, on peut être amené à parler très fort pour avoir un écho. Finalement, les chauves-souris utilisent le même principe.
Donc, avec une distance importante.
Avec une distance importante. Donc, du coup, même si nous, on ne les entend pas, dans l'ultrason, c'est très fort, un cri de chauve-souris. Et ça a vraiment pour fonction de renseigner l'animal sur ce qui va se trouver devant lui. Le cri est émis par la bouche de l'animal en général, ça peut être émis par le nez en fonction des espèces. Oui. Puis l'animal utilise l'écho pour se repérer dans l'espace, et d'une, et de deux, repérer aussi les proies potentielles. Alors, la difficulté hein, pour ces espèces-là, c'est d'émettre des ultrasons, de calculer leur trajectoire hein, en fonction de leur position dans l'espace, et de calculer aussi la trajectoire de la proie, au milieu d'un espace très encombré. C'est le cas notamment pour les espèces forestières.
C'est ça.
Et ça, en quelques millisecondes.
C'est absolument sidérant.
Ben, ce qui est sidérant, c'est de considérer que c'est des animaux qui ont un cerveau peut-être d'un demi-gramme.
Parce que ce sont autant d'informations qui leur parviennent.
Exactement. Mm-hmm. Et leur cerveau d'un demi-gramme est capable d'avoir un traitement informatique, on va dire ça, qui est plus performant que la plupart des ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui.
Julien Perrault. Le traitement algorithmique quasiment des chauves-souris.
C'est juste dingue. Et puis en plus de ça, ce qu'il faut vous imaginer, c'est que justement, comme les ultrasons sont des sons qui portent pas loin, pour que le système fonctionne, il faut produire les sons très forts. Et une chauve-souris, ça peut produire des cris à 120 décibels.
Ouais.
Donc nous, ça nous... Pour nous, ce serait, si on les percevait, ce serait vraiment douloureux. Donc elles ont même un système pour bloquer leur oreille interne au moment où elles crient. Et puis voilà, il faut que tout ça n'interfère pas entre le son qui part, le
tout
son qui revient.
Tout ça sur des microsecondes. Hein.
Tout ça sur les microsecondes. Ouais. Alors souvent la fréquence des cris, elle varie justement aussi en fonction de la distance de la proie. Et puis à la fin, il faut l'attraper soit dans sa bouche, soit même parfois en utilisant ses ailes.
Ouais. Allez, on termine cette émission avec les messages des auditeurs qui sont nombreux. Paul nous dit ceci, j'ai une maison dans les Landes, je suis très heureuse de la partager avec les chauves-souris. Chaque année, on a l'occasion de récupérer des chauves-souris égarées dans la maison ou sur la terrasse. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour justement sauver ces animaux, Julien?
Bah, je dirais déjà, c'est de les déranger le moins possible. Et puis souvent, si une chauve-souris, si on trouve une chauve-souris par terre, on peut déjà essayer de la reposer en hauteur pour voir simplement si elle va repartir. Ça peut être un bon truc. Et puis après, si manifestement elle a un problème, ben il y a des centres de soins quand même qui existent dans les différentes régions. Mmh. Et puis voilà, si une chauve-souris est blessée, elle peut être soignée.
Dominique demande comment on peut les attirer justement pour qu'elles s'installent près d'une maison et mangent les moustiques. Alors il y a les pour, il y a les contre, il y a ceux qui veulent en avoir absolument chez eux.
Ça c'est une très très bonne question. Ce qu'il faut c'est leur réserver un espace. C'est les chauves-souris qui choisissent, on peut pas les attirer. Par contre, à partir du moment où on pose pourquoi pas des nichoirs ou qu'on leur réserve un espace dans notre toit, on a la possibilité qu'elles s'installent.
Alors c'est ça, demande Sandra justement, est-ce que vous avez des critères pour choisir son nichoir chauve-souris, pour le fixer sur la maison ou dans un arbre, qu'est-ce qui est le mieux?
Oh, en fait, il y a des espèces qui sont inféodées aux arbres, des espèces qui sont inféodées aux maisons, aux habitations. Donc tout peut convenir, il existe aujourd'hui des nichoirs en bois, des nichoirs béton. Mmh. Sur internet, là on trouve tout un tas de modèles possibles et utilisable.
Bon.
Il y a pléthore de modèles.
Et la chauve-souris s'adapte plutôt bien.
Exactement.
Alors, Michel demande, pour lutter contre l'éloignement des chauves-souris, est-ce qu'on peut imaginer les apprivoiser à l'instar des chiens ou des chats?
Non, ça ne marche pas malheureusement. La seule possibilité qu'on ait, c'est à partir du moment où on a un espace avec un gîte favorable, de reboiser autour, de planter des arbres qui vont favoriser leur maintien.
Ouais. Alors beaucoup de messages, je vous le disais, de l'île Maurice, avec une question assez politique visiblement. Dany nous dit, que savez-vous et que pensez-vous de l'abattage des roussettes noires par le gouvernement de l'île Maurice? Même question de Christophe. L'île Maurice voudrait exterminer 18 000 roussettes noires, accusées par les producteurs de fruits de détruire les récoltes. Cette espèce endémique de chauve-souris frugivore pourrait très bientôt disparaître si le gouvernement mettait son plan en exécution. Qu'en savez-vous, Laurent Tillon, exactement?
En fait, j'en sais pas, je connais pas bien le dossier. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les espèces de chauve-souris ne font qu'un seul jeune par an. À partir du moment où on prend une décision d'éliminer une population ou d'éliminer des individus, on ne peut pas imaginer que les populations soient capables de se restaurer en peu de temps. Mmh. Donc, à partir du moment là où on va éliminer des espèces qui sont présentes dans leur milieu, qui du coup contribuent à l'équilibre du milieu, il y a un risque quand même très fort qu'on déséquilibre de manière indirecte le milieu. Donc moi je sais que, je suis pas très favorable à ce genre de mesures parce que déjà ce sont des espèces qui sont en général qui sont rares et puis ce sont des espèces qui sont aussi utiles à l'environnement. Mmh. Donc là le risque il est très fort pour l'ensemble de l'environnement à partir du moment où on est tenté d'éliminer une population.
Ouais, et puis si la population estimée est 18 000 individus à l'échelle de l'île Maurice.
Alors là c'est le nombre d'individus qui seraient abattus. Hein.
Ouais. D'accord, ok. Mais je veux dire par rapport à des récoltes de fruits ou des monocultures ou autres, ça paraît bizarre.
C'est surtout qu'il existe en général des moyens de lutte et de défense, surtout des cultures.
Alors c'est ça
qui permettent normalement.
Quelles sont les méthodes les plus efficaces selon vous? Parce que c'est vrai qu'il y a des producteurs de fruits qui eux.
Je vous avoue que je les connais pas bien, donc là c'est difficile. Mais par exemple, des systèmes de filets sont peut-être utilisables pour arriver à protéger les fruits.
Hmm. Blandine nous dit, nous avons le soir en été des chauves-souris qui volent autour de la maison. Je soupçonne qu'elles nichent dans la charpente d'un vieux hangar. Ce vieux hangar doit être détruit prochainement. Quelles seraient les conséquences justement de la disparition de ce lieu où nichent les chauves-souris?
Ça pourrait imposer à la population ou à la colonie de déménager et il faut absolument à ce moment-là lui proposer un autre gîte dans lequel elle va pouvoir se réinstaller.
Laurent Tillon, puisque c'est la saison des amours qui justifie cette émission aujourd'hui, un mot très rapide sur la façon dont ça fonctionne. Ce sont les mâles qui s'installent d'abord dans les cavités pour attirer les femelles?
Exactement, les mâles arrivent assez tôt en saison. Alors en fonction des espèces, ça peut démarrer dès la mi-août, mais ça peut durer jusque fin octobre. Et là, les mâles s'installent, chantent, attire les femelles.
Ah, il y a le chant de la chauve-souris.
Exactement,
aussi.
Il y a le chant de la chauve-souris. Et notamment dans les cavités souterraines qui sont répertoriées sur des catalogues que les chauves-souris doivent avoir, puisque ça peut réunir des fois plusieurs milliers d'individus d'une même espèce. Et là, les plus beaux chanteurs vont attirer les femelles qui vont venir s'accoupler avec ces mâles.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. On en saura largement plus en prenant le temps de lire la Salamandre ou de s'abonner sur salamandre.net. Ni chauve, ni souris donc à la une. Et puis la Salamandre pour les juniors également, Julien Perrault. Merci beaucoup à tous les deux et bon retour.